Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ainsi fait-il, c'est le titre que Caroline Pigozzi de Paris Match et le père Henri Madeleine, jésuite, consacrent au pape François. Franck Ferrand les a invités cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. À travers le cas très célèbre du pape François, c'est le cas des jésuites, souvent méconnus, que j'aimerais évoquer aujourd'hui. Je vais du reste, pour commencer cette émission, vous raconter l'épisode de l'expulsion des jésuites du royaume au XVIIIe siècle.
Et tout à l'heure, dans votre retour aux origines, vous répondrez à la question d'Arthur sur l'origine du nom des continent.
Question intéressante. Pour le moment, je vous propose de nous retrouver au cœur de l'histoire étonnante de ces hommes en noir qui, depuis plus de 4 siècles, composent la Compagnie de Jésus.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Quand on parle des jésuites en France, c'est le plus souvent pour faire allusion à leurs écoles, évidemment, à leurs lycées, à leurs instituts d'enseignement. Pendant des générations, les élites de notre pays ont été largement formées chez les jèses. Et l'on n'en finirait pas de signaler le nombre extraordinaire de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de personnalités importantes qui ont été formées à cette école. On finirait presque par considérer les religieux de cet ordre comme les enseignants de l'Église. Et pourtant, il s'agit là d'une vision des plus réductrices. Les jésuites, enfin précisément la Compagnie de Jésus, avec quelque 19 000 membres à travers le monde, constituent aujourd'hui le premier ordre religieux de la chrétienté devant les franciscains, devant les dominicains. Cet ordre célébrera en 2037 le 500e anniversaire de sa fondation, par Ignace de Loyola, dont je vais vous parler tout à l'heure. Il s'agit d'un ordre strictement masculin. Les jésuites professent 4 vœux, vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance au supérieur, ça c'est classique, mais aussi, et c'est très particulier, vœux d'obéissance absolue au pape et à Dieu. Leur devise est très connue, bien sûr, ad majorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Leur sceau, vous le voyez très souvent imprimé, très souvent reproduit dans toutes sortes d'endroits. C'est le IHS, bien entendu, l'abréviation du nom de Jésus en grec, au-dessus des 3 clous, symbole de la crucifixion. On a l'impression, finalement, de connaître les jésuites, et vous allez vous rendre compte au cours de cette émission que ce n'est sûrement pas le cas. Si tous les jésuites ne sont pas enseignants, en revanche, tous sont des intellectuels, si je puis dire. Leur formation est très longue, hein, 15 années, des cours de théologie, de philosophie, de sciences, etc., à très haute dose, avec cette priorité, cette mission, en quelque sorte, qu'est l'instruction de la jeunesse. Or, à plusieurs reprises dans son histoire, cet ordre aura été supprimé. Nous allons y venir, bien entendu. Je vais vous parler du moment le plus dramatique de l'histoire des jésuites. C'est au XVIIIe siècle, bien entendu, quand la papauté elle-même décidera de supprimer l'ordre. Vous verrez dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. À cette époque, il y a 23 000 jésuites dans le monde, 800 résidences, 700 collèges, 300 missions. Absolument essentielles, les missions. On va y venir, bien entendu. C'est peut-être la raison d'être, finalement, de l'ordre. Un ordre dispersé dans toutes sortes de pays, en France, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Allemagne, en Italie. Très souvent, les jésuites à l'époque sont les confesseurs des princes. En France, ils tiennent carrément la feuille des bénéfices. J'ai souvent eu l'occasion à ce même micro de vous parler de cette feuille des bénéfices essentielle, qui est, en quelque sorte, la répartition des charges ecclésiastiques. Eh bien, les jésuites ont la possibilité à l'époque de proposer au roi les noms de ceux qui seront nommés aux différents postes. Cette formation de la jeunesse joue un rôle essentiel, notamment dans les élites. Il y a énormément de jésuites qui enseignent dans la noblesse, dans la haute bourgeoisie. Mais il existe aussi des missions populaires, les bons pères prêchant la bonne parole. Alors, Néanmoins, ces jésuites à l'époque sont assez mal vus, mal perçus. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? On leur reproche des conceptions dogmatiques, nous verrons ce qu'il faut en penser. On leur reproche évidemment la discipline stricte qu'ils font régner dans les établissements d'éducation. Et d'une façon plus générale, cette mainmise sur l'éducation. Voici ce qu'écrivait Daniel Rops. En Allemagne, le clergé séculier leur reprochait, non sans quelque raison, de monopoliser les chaires d'université. À Rome même, des cardinaux comme Passionnei s'irritaient publiquement de les trouver dans tous les couloirs de la curie. D'autre part, les jansénistes, il va de soi, dont les jésuites avaient été les adversaires vigilants et souvent efficaces, guettaient le moment de la revanche. S'il y a une chose à retenir, je crois qu'elle est là, elle est dans cette volonté des jansénistes, là aussi nous en avons souvent parlé de ces jansénistes, dans leur volonté de se venger en quelque sorte des jésuites qui avaient été leurs principaux adversaires au sein de l'Église. Les pères sont attaqués directement, on va les accuser tantôt de tyrannicide, tantôt de gérer à travers un certain nombre d'associés de puissantes affaires temporelles. Et puis n'oublions pas peut-être leurs pires ennemis et qui dans cette affaire vont jouer un rôle important, ce sont les philosophes qui eux sont athées ou déistes et qui reprochent aux jésuites d'être les défenseurs du pape. C'est Voltaire qui disait, je le cite, « Une fois que nous aurons détruit les jésuites, nous aurons beau jeu contre l'infâme ». L'infâme, c'était, selon Voltaire, l'intolérance religieuse, évidemment. À l'époque, existent ces jésuites depuis environ deux siècles, un peu moins de deux siècles. Voilà comment tout est venu. C'est Ignace de Loyola qui a fondé l'ordre. Dès 1521, Ignace de Loyola avait eu en quelque sorte une révélation. Il était très blessé, grièvement blessé, après le siège de Pampelune, face aux armées françaises de François Ier. Il se repose à l'époque dans le château de Loyola, près d'Azpeitia, qui est donc une cité basque, et Ignace lit la vie du Christ de l'Auduche de Chartreux et la célèbre légende dorée de Jacques de Voragine. Or, il est totalement pénétré de ces lectures et il a l'intention, c'est plus que l'intention, il ressent la nécessité d'imiter les prouesses des saints, dira-t-il. Et il décide, une fois guéri, de partir pour Jérusalem. Il n'ira pas tout à fait au bout, il s'arrête à Mandresa où il passe 11 mois. C'est son désert, fait de pénitence, de jeûne, de prière. Il reprend finalement sa route, il arrivera à Jérusalem en 1523. Or là, le gardien des franciscains ne l'autorise pas à rester sur place. Il va rentrer en Europe où il étudie. Il rassemble autour de lui un certain nombre de compagnons, 6 compagnons dont nous aurons peut-être tout à l'heure l'occasion de parler. Et c'est à Montmartre, la colline que nous connaissons bien, que le 15 août 1534, il fait vœu de vivre dans la stricte pauvreté et de partir pour Jérusalem. Ses 6 compagnons vont l'accompagner. Ensemble, il décide que si le voyage devait se révéler impossible, les compagnons se mettraient à la disposition du pape, peu importe la mission qu'on leur assignera, que ce soit chez les fidèles ou chez les infidèles.
Thank you.
Antoine Charpentier sur Europe 1, un extrait de Josué. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire des Jésuites.
Oui, le nouveau voyage d'Ignace et de ses compagnons vers la Terre Sainte se révèle impossible. Après être passé et avoir séjourné à Venise, ils se dirigent vers Rome. Entre-temps, d'autres compagnons les ont rejoints, bien entendu. Ils arrivent au printemps 1537, ils sont ordonnés prêtres et comme prévu, ils vont donc proposer leur service au pape. À ce moment-là, ils sont séparés, répartis dans des missions très différentes. Et pour rester unis malgré cette séparation, ils vont fonder une compagnie qui portera le nom de Jésus. Elle sera reconnue en 1540 par le pape Paul II et Ignace de Loyola est élu préposé général de cette compagnie dès l'année suivante en 1541. Alors, comme tous les religieux catholiques, je vous l'ai dit, les jésuites professent trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance à leur supérieur, et puis ce vœu spécial d'obéissance au pape qui va jouer un rôle extrêmement important dans leur destin, dans la destinée même de leur communauté. Ignace de Loyola reste à Rome, il s'occupe de créer ou d'animer des œuvres de charité, d'enseignement, il va former constamment de nouvelles recrues. Tout ça va bien entendu orienter l'action apostolique de ce jeune ordre, de ce nouvel ordre. Quant au terme de jésuite, il apparaît autour de 1545, sans d'ailleurs jamais présenter de caractère officiel. Ignace mourra en 1556. À ce moment-là, les constitutions définitives ne sont pas encore approuvées par la compagnie, qui déjà compte plus d'un millier de membres. Saint Ignace sera lui-même béatifié en 1609, canonisé en 1622. La compagnie va ne faire que croître et prospérer, puisqu'elle compte 13 000 membres dans toute l'Europe vers la fin du XVIIe siècle. Ça va se développer encore, je vous l'ai dit, je parlais tout à l'heure de presque 25 000 membres au XVIIIe siècle. Alors, revenons à cette suppression de l'ordre au XVIIIe siècle. C'est au Portugal que tout a commencé, avec la nomination du Premier ministre Pombal. Vous savez, Sébastien José de Carvalho et Melo, c'est l'homme qui a reconstruit Lisbonne après le fameux tremblement de terre de 1755. Un ministre très puissant, l'homme fort du Portugal de l'époque, qui décide de rompre avec la puissance de l'Église, qui, estime-t-il, est devenue beaucoup trop importante au Portugal. Son idée est de répandre les nouvelles idées des Lumières, de moderniser à toute force le Portugal. Lui-même, du reste, a été en partie formé à Londres. Il est revenu d'Angleterre voltairien, anticlérical, résolu. C'est en tout cas ce que nous dit Daniel Rops. Et il se trouve que le roi, le nouveau roi, va le suivre. Jean V était très pieux, il avait même reçu le qualificatif de très fidèle en 1748, il avait été ainsi nommé par le roi Benoît XIV, mais le nouveau roi va bientôt suivre Pombal, qui peu à peu va essayer de soulever le pays contre les jésuites. Il fait d'abord expulser les confesseurs du roi, qui ont eu le malheur de le critiquer, il critique lui-même la taxe que les universités paient tous les 15 ans à Rome, il critique l'action des vicaires apostoliques aux Indes, ou encore le fait, c'est-à-dire à l'époque dans toutes les colonies portugaises, et le fait que le nonce de Lisbonne ne devienne pas cardinal. C'est là-dessus que survient ce qu'on appelle la guerre des Guaranis. Ça, c'est très important, ça c'est passionnant d'ailleurs. Les Guaranis en question sont des Indiens de l'Uruguay et du Paraguay. Or, au XVIIe siècle, les jésuites qui avaient investi ces régions ont créé une véritable république chrétienne où les Indiens vivaient protégés de la traite d'esclaves et donc des colons espagnols et portugais. Ils étaient regroupés dans une trentaine de réductions, c'est le nom qu'on donnait, les reducciones, autonomes, administrées par les Indiens eux-mêmes. Et en 1750, un traité de délimitation signé entre l'Espagne et le Portugal prévoyait de faire évacuer 7 de ces 30 réductions qui du coup passaient sous contrôle portugais. Les Guaranis à ce moment-là refusent de se déplacer. En 1753, ils commencent à opposer une véritable résistance en empêchant les travaux de délimitation des nouvelles frontières. C'est ce qu'on appelle la guerre des Guaranis. Et évidemment, ça provoque la colère terrible du premier ministre portugais, Pombal, qui accuse la Compagnie de Jésus d'être à l'origine de la rébellion dans le but de sauvegarder des richesses qu'il qualifie lui-même du reste d'énormes. Le Premier ministre, à ce moment-là, demande au pape Benoît XIV une enquête. Cette enquête, elle va être menée par le patriarche de Lisbonne, qui se trouve être un proche de Pombal. Oh, ça dure pas très longtemps. Hein. En 3 semaines, le rapport est établi, sans que le cardinal ait ne serait-ce que pris la peine de se rendre en Amérique du Sud. Il accuse les pères, je cite, de se livrer à des affaires douteuses, d'être des objets de scandale pour les honnêtes colons et de mains autres méfaits. Et en réponse, le général des Jésuites prend la parole, assez discrètement peut-être, il a peur sans doute de déclencher contre son ordre une véritable persécution de la part de Pombal. À Rome, personne ne va prendre la défense des Jésuites, surtout pas le nouveau pape élu en 1758, il s'appelle Clément XIII. Le courage et l'énergie n'étaient pas ses vertus dominantes, nous dit Daniel Rops. Il se tut, redoutant, disait-il, s'il parlait trop haut, que Pombal profita des étroites relations qui existaient désormais entre le Portugal et l'Angleterre pour imiter Henri VIII et provoquer un schisme lusitanien. La papauté va en quelque sorte ménager Pombal et ne pas soutenir les jésuites. Tout bascule au matin du 4 septembre 1758. Dans la nuit, la voiture du roi a essuyé des coups de feu. Il faut vous dire que le roi rentrait de chez sa maîtresse et que les coups de feu en question provenaient probablement de partisans ou même de parents de la jeune femme. Toujours est-il que le Premier ministre en profite. Il accuse nommément les jésuites et alors là, c'est la répression. Les pères sont jetés en prison, certains pour 20 ans, ils sont maltraités, certains sont envoyé à Rome par le port de Civitavecchia, dans les états du pape, et ceux qui critiquent le pouvoir sont déférés au tribunal de l'Inquisition qui se trouve être dirigé par le propre frère du Premier ministre. Vous voyez que tout ça est bien organisé. Parmi les condamnés, on compte le célèbre Malagrida, qui est âgé à l'époque de 81 ans, qui va être condamné à mort et brûlé vif.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous continuons avec vous, Franck Ferrand, à faire le tour de l'histoire des jésuites dans toute l'Europe.
Alors ça, c'est ce qui se passe au Portugal. Mais qu'en est-il en France ? Évidemment, tout ce qui se passe au Portugal a eu des répercussions. L'occasion était favorable, nous dit notre historien de l'Église. Si méfiant qu'il fût des parlements, le roi ne pouvait pas se brouiller avec eux au moment où les dépenses de la guerre de 7 ans accroissaient de mois en mois ses difficultés financières. Les robins, amis de Port-Royal, alors il faut décrypter un peu, les robins sont donc les gens de robe, les parlementaires, qui sont membres de toutes ces hautes cours et qui sont pour une grande partie d'entre eux descendants de familles jansénistes, donc les ennemis tout désignés des jésuites. Ces parlementaires ennemis des jésuites attendaient depuis longtemps l'heure de se venger de ceux qu'on appelle les hommes en noir. Le procès va commencer en 1761. La compagnie de Jésus est déférée à l'époque devant la justice par la société marseillaise Lyonnais et Gaufres. En fait, cette société travaillait avec le père Lavalette, qui était installé depuis 1743 aux Antilles, qui du reste était le supérieur des missions jésuites dans les îles et qui organisait tout un système de vente des produits coloniaux, jusqu'à une violente épidémie qui a tué le personnel, qui a gravement affecté les plantations, qui a ruiné le père Lavalette. Quand je dis ruiné, c'est un déficit absolument gigantesque de 2 400 000 livres de l'époque, une somme astronomique. La société elle-même est ruinée. Elle se retourne contre les jésuites qui, évidemment, condamnés en première instance, font appel. Là où c'est assez extraordinaire, c'est que le Parlement de Paris confirme le jugement en première instance. Il condamne la Compagnie de Jésus à payer la somme qui n'avait pas été remboursée, c'est-à-dire plus 1,5 million de livres, avec les frais, avec des dommages intérêts, etc. C'est une véritable persécution judiciaire dont l'ordre est victime. Et ça ne va pas s'arrêter là, bien au contraire. Un conseiller du Parlement de Paris, l'abbé de Chauvelin, lance de violentes accusations contre les jésuites. On accuse les de la compagnie d'être contraire aux lois du royaume, ça c'est gravissime. Le Parlement décide d'étudier ses constitutions de très près et en 1761, alors qu'au Portugal on est en train de tuer Malagrida sur son bûcher, 25 traités de théologie de la compagnie de Jésus vont être brûlés en public devant le grand escalier du Parlement de Paris. C'est un arrêt qui ensuite va obliger les pères à fermer toutes leurs écoles. Alors on se dit, le roi Louis XV va intervenir. Pas du tout. le roi n'intervient pas. Le gouvernement, quand même, par l'intermédiaire de Choiseul, essaie de démêler un peu le vrai du faux. Choiseul refuse d'ordonner l'exécution de l'arrêt. Il fait appel devant l'Assemblée du clergé de France pour obtenir un avis qu'il considérerait comme plus sérieux. Or, sur 51 évêques, seul Monseigneur de Fitzjames, qui est un ami des jansénistes, demande la suppression de la Compagnie de Jésus. Vous voyez donc que, normalement, rien n'aurait dû se passer. Vous oubliez cette espèce de colère recuite du Parlement de Paris qui, en 1762, passe à l'offensive avec une publication qui s'appelle « Assertions dangereuses et pernicieuses en trois genres des soi-disant jésuites » et qui va aboutir, dès le 6 août de cette année 1762, à un arrêt du Parlement de Paris ordonnant, et alors là, tenez-vous bien, la suppression pure et simple de la Compagnie. Et alors, l'application de l'arrêt va mettre longtemps, mais le 18 novembre 1764, la Compagnie de Jésus est déclarée abolie en France. C'est un édit royal. Il va falloir évidemment que tous les jésuites soient ne se considèrent plus comme tels, soit s'en aillent purement et simplement. Le pape Clément XIII proteste contre cette décision, bien entendu, mais sa circulaire n'est même pas prise en compte. Elle est, disons-le, largement ignorée des chrétiens de France. Les 3000 jésuites de France sont dispersés. Pourquoi ? C'est ce que nous verrons dans un instant avec le père Henri Madelin. Et alors, vous avez vu cette persécution qui se développe au Portugal, en France, mais ça va bientôt être le cas en Espagne, et puis après l'Espagne, ce sera l'Italie, et puis petit à petit, l'affaire gagnant, si je puis dire, des territoires de plus en plus nombreux, petit à petit, c'est la question de l'interdiction directe par le pape lui-même, par le protecteur des jésuites qui va être posée. En vérité, c'est l'élection de Clément XIV en 1769 qui va changer la situation. On a dit qu'il avait été porté sur le trône de Saint-Pierre par ceux qui, justement, voulaient abattre les jésuites. Deux ans plus tard, il va donner le titre de cardinal au fameux Paulo Carvalho, qui est le frère du premier ministre portugais. Il s'adonne rapidement à des perquisitions dans les collèges, à des suppressions de postes d'enseignants, etc. Pour autant, il ne prend pas la décision tout de suite de supprimer la Compagnie. Tout s'accélère quand une voyante célèbre en Italie, Bernardine Baruzzi, assure que Clément XIV va mourir puni par le ciel pour ses projets impies. Le pape est terrifié par ces menaces et plutôt par les rumeurs qui se répandent à l'époque. Il va finir par céder et le 8 juin 1773, par un bref très célèbre, Dominus Sacredemptor, il va supprimer à son tour la Compagnie de Jésus. Elle sera par la suite restaurée, mais c'est évidemment le grand traumatisme de l'histoire de cet ordre. Je suis très heureux d'accueillir Caroline Pigozzi et Henri Madelin à ce micro pour parler des jésuites en général et bien entendu du plus célèbre de tous, celui qui, depuis maintenant un peu plus d'un an, cristallise tous les commentaires sur son compte, le pape François, qui, on l'oublie parfois, Caroline Pigozzi, est lui-même un jésuite, bien entendu.
Ah, mais quand on le voit, on l'oublie pas parce qu'il a des côtés très jésuites.
Alors nous allons y venir ensemble dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Beethoven sur Europe 1, un extrait de Missa Solemnis, c'était Kyrie. Au cœur de l'histoire consacrée aux jésuites cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Caroline Pigozzi, grand reporter à Paris Match et spécialiste des religions sur Europe 1, et Henri Madelin, jésuite, a été maître de conférence à Sciences Po et enseigne au Centre Sèvres à Paris, auteur avec Caroline Pigozzi d'Ainsi fait-il aux éditions Plon.
Alors j'ai à très grands traits, à la hussarde, parcouru une partie de l'histoire de cet ordre de la Compagnie de Jésus. Il faut que vous nous disiez, Père Madelin, pourquoi on s'en est comme cela pris aux jésuites. J'ai avancé un certain nombre d'arguments, mais je vous avoue que je n'étais moi-même pas tellement convaincu. On se demande un peu ce que les Portugais, les Espagnols, les Français, les Italiens et jusqu'au Vatican lui-même pouvaient bien avoir à reprocher à ces jésuites.
Oui, c'est une histoire très très sombre. Et vous vous rappelez qu'il y a un trait d'humour du pape actuel, jésuite, première fois qu'il y a un pape jésuite, première fois depuis un siècle qu'il y a un religieux qui accède.
Oui. Oui.
Eh bien, il y a un cardinal, avant qu'il se déclare s'appeler François, qui lui dit « Mais écoute, moi j'ai trouvé, il faut que tu t'appelles Clément XV ». Alors il rit, mais il n'est pas question...
Pour répondre à Clément XIV,
voilà,
évidemment.
Voilà, si Rome doit faire un geste, c'est pour dire, bien, quand même, cette histoire a été affreuse. Moi, ce que je vois aussi dans cette histoire, c'est que c'est les rois qui font le pape et les cours très très chrétiennes. C'est ça qui est encore plus étonnant. Parce que dans votre récit, il manquait encore l'Espagne, mais vous ne pouvez pas...
Mais oui, sur laquelle j'ai fait une impasse.
Oui, alors l'Espagne, il y a eu des libelles où on a accusé le roi d'Espagne d'être un bâtard. Et naturellement, on a attribué ça aux jésuites. Et il semble que c'est ça qui a déterminé beaucoup.
Et puis, il y a la branche sur laquelle j'ai fait l'impasse aussi, mais la branche espagnole des Bourbons de Naples qui vont se mettre dans la danse, si je puis dire. Alors, qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement?
Bon, il y a beaucoup de jalousie, parce que les collèges, c'est quand même une institution extrêmement forte. On leur reproche d'être les confesseurs des rois, c'est-à-dire de faire de la politique sans en avoir l'air. Et c'est pour ça que, l'abstention de Louis XV est très très étonnante dans cette affaire.
Avant l'abstention de Louis XV, il y a d'abord, si l'on peut dire, celle de Clément XIII, qui émet une protestation, mais une protestation de pure forme, et la circulaire qu'il produit pour protester contre les premières persécutions, si je puis dire, n'est prise en compte nulle part, en vérité.
Non, nulle part, mais en fait, quand on lit les livres d'histoire, comme vous l'avez fait, les jésuites ne pensent pas que tout ça va se réaliser. C'est une immense surprise quand même que cette décision papale, que ce soit supprimé dans tel ou tel royaume, ça c'est possible, mais que le pape lui-même prenne cette décision, c'est gros de conséquences. Vous avez
incroyable.
Vu l'assemblée des évêques en France qui ne comprend pas ce qui se passe.
Un seul évêque, Monseigneur de Fitzjam, dit oui, ils sont condamnables. Tous les autres ne voient même pas où est la question, où est le problème. Finalement, il ne s'agit même pas d'une dispute théologique comme les 17 et 18 siècle en ont connu un si grand nombre. En l'occurrence, ce qu'on reproche aux jésuites, c'est plutôt leur position finalement. C'est le succès qu'ils ont connu dans les différents royaumes et à l'étranger aussi. Parce qu'il faut parler de ces missions, bien entendu, qui avaient
une présence absolument extraordinaire. Vous avez cité le chiffre des jésuites, 1000 personnes.
C'est quand même
au moment
pas beaucoup,
où meurt le fondateur, il est mort assez jeune. C'est extraordinaire. Et l'Amérique latine joue un rôle absolument extraordinaire, d'où les problèmes entre l'Espagne et le Portugal. Il y a une rivalité extraordinaire entre l'Espagne et le Portugal. Les jésuites se sont plutôt servis de l'aide de l'Espagne, c'est pour ça que le lâchage de l'Espagne est dramatique, pour empêcher les Portugais de chasser les esclaves. Ils ont un traité royal qui leur donne des franchises pour pouvoir repousser les marchands d'esclaves qui circulent dans les forêts.
Alors, il y a deux aspects que j'aimerais qu'on souligne pour nos auditeurs. Le premier aspect, c'est cette très grande loyauté des jésuites à l'institution ecclésiastique. C'est-à-dire que ce quatrième vœu qu'ils professent, celui d'obéissance au pape, en fait, en tout cas aux yeux de tous ceux qu'on appelle les philosophes à l'époque, et bien entendu Voltaire est leur principal ennemi, même si Voltaire, au passage, d'ailleurs, se rachète, si je puis dire, en protégeant lui-même un jésuite. Mais enfin, ça fait partie des contradictions du personnage.
Voltaire fait corriger ses textes par son professeur de rhétorique,
c'est quand même
jusqu'à la fin.
J'allais dire, c'est quand même un comble.
Un hommage à l'intellectualité.
un hommage que le vice rend à la vertu, pourriez-vous dire. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que pour tous ces philosophes, les jésuites, ce sont les défenseurs non seulement d'une foi, mais surtout d'une institution, de l'Église, c'est-à-dire de l'ennemi même de cette pensée des Lumières, en fait. C'est ça qu'on leur reproche.
On va retrouver un modèle qu'on va connaître au moment où la laïcité française sous la Troisième République va devenir extrêmement violente et épinglera les jésuites comme les adversaires en particulier, c'est-à-dire on ne comprend pas ce qu'ils font dans l'émission. Et pourtant, s'il y a quelque chose que les gens des Lumières aiment beaucoup, c'est leur capacité missionnaire. Toute l'affaire de Ritchie, la Chine, donc on n'a pas eu le temps d'évoquer, leur façon de comprendre Confucius, toutes les missions en Extrême-Orient, en Inde, tout ça, les philosophes des Lumières sont assez impressionnés parce que c'est l'homme bon partout qu'il faut aller chercher. Moi, je crois que le fond de la question, c'est, il y a une querelle théologique, c'est quand même, ils sont, depuis le début, puisqu'il faut un vœu spécial d'obéissance au pape, ils sont depuis le début ce qu'on appellerait ultramontains, c'est-à-dire ils franchissent constamment les frontières nationales.
Ça ne plaît pas aux hommes d'État puissants, comme oui. a pu l'être Pombal.
Exactement, parce qu'on peut avoir un jour un supérieur des jésuites qui n'est pas de la nationalité du pays en question. Et alors, ça fait des problèmes. Il y a une espèce de nationalisme qui monte dans ces royaumes. Et je dois dire aussi que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les jésuites se vengent finalement en développant à toute allure les missions. Et les missions sont une manière de répondre à cet ultramontanisme, parce que le pape a besoin des missions. C'est peut-être ce qu'il y a de plus beau chez les jésuites. Vous avez cité des chiffres, ils sont en tête des congrégations. Et c'est aussi, encore aujourd'hui, la première congrégation missionnaire. 30% des effectifs sont...
Un tiers des missionnaires dans le monde sont composés de jésuites. Voilà. Hein. C'est assez extraordinaire. Alors, on a bien compris ce qui les différencie des autres ordres, notamment cette obéissance particulière au pape, c'est fondamental. On a bien compris qu'ils sont des intellectuels, en quelque sorte, avec une formation très approfondie dans des disciplines où les jésuites, pendant longtemps, s'étaient arrogés un quasi-monopole, d'une certaine façon. Au-delà de ça, comment définiriez-vous la pensée même des jésuites, s'il fallait la définir? Parfois, on fait des plaisanteries là-dessus, on manifeste une certaine ironie, on parle de la casuistique.
Alors, la casuistique, c'est avec Pascal, mais les jésuites sont critiqués aussi parce que ils ont introduit dans leur éducation la découverte des sciences exactes, le ciel, la terre, les cailloux. Bon, ça donnera un jour Teilhard de Chardin, par exemple. Voilà. Et ça, c'est pas forcément très populaire dans les milieux romains parce que ça repose des nouvelles questions théologiques. Galilée, Ritchie, tout ça, c'est un problème. Et alors, les jésuites vont se venger malgré eux. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a deux royaumes où on n'a pas publié ce décret, c'est la Russie et la Prusse. La Prusse
vient... Donc Catherine II, Frédéric II, qui d'ailleurs, Frédéric se déclare même le défenseur voilà. des jésuites, alors, un protecteur.
Au grand scandale, il se brouille avec la philosophie des Lumières, donc, dont il était un tenant. Donc tout n'est pas supprimé. Et les jésuites repartent, mais ce sera une toute autre compagnie qui va naître de cette... Parce que ça fait quand même deux générations. Et alors du coup, c'est assez intéressant parce qu'on n'entend pas parler des jésuites sous la Révolution française. Et ils sont là, mais ils sont passés au clergé séculier, où ils se sont mariés, où ils ont quitté l'ordre. Ben, il n'y a plus d'ordre.
L'ordre ne reviendra qu'en 1815, au moment de la Restauration.
Donc on va fêter ça aussi
ça va être
très prochainement.
Bientôt le bicentenaire retour des jésuites. Alors retour en force, tellement en force, Caroline Pigozzi, qu'on peut dire qu'évidemment, ils ont eu aussi une influence très grande sur la formation des élites du 19e et du 20e siècle. Peut-être qu'une part de leur presse, parfois pas très bonne, j'essaie d'être diplomate, tient au fait qu'un certain nombre de nos dirigeants ont été formés chez les jésuites et qu'ils n'en ont pas tous un très bon souvenir. Certains, oui, d'ailleurs, c'est assez partagé, ça. En tout cas, c'est très répandu, cette formation.
Oui, on peut voir, ils sont partout, d'ailleurs, nous, on a fait une sorte de lexique subjectif
du
livre et reçu un certain nombre de lettres de gens qui étaient vexés de ne pas en être, mais très peu de lettres...
Le wouz-wouz des élèves des jésuites.
Très peu de lettres de gens qui étaient fâchés d'y être.
Oui, c'est ça.
Donc, il y a plus de gens qui sont fiers d'être chez les jésuites. Il y a une chose qui est assez intéressante, il y a aussi beaucoup de gens qui mentent, alors qu'ils vous disent « j'étais chez les jésuites », alors quand je triplais les vérifications, je m'apercevais qu'ils étaient chez les bons pères, mais pas chez les jésuites.
Ah oui,
ils étaient
quel...
Ah oui, oui.
Mais donc la... Alors, permet de camoufler.
Oui. La fierté...
Quelle est la nuance ?
Expliquez-nous. La fierté d'être chez les jésuites. C'est pour ça qu'on ment, vous voyez.
Expliquez-nous.
On a entendu Mitterrand élevé chez les bons pères. Tout le monde s'est dit, ça y est, les jésuites l'ont
formé.
Non, c'est
faire des écoles
chrétiennes. Non, ça veut dire les bons pères, finalement, c'est tous les religieux. Qui s'occupent d'éducation.
Voilà.
Alors, bon père, là, on leur
ça permet de,
on
de...
leur donne une qualification. Voilà. Ils sont bons, ça veut dire que les autres ne sont pas si bons qu'ils le disent, sans doute. Mais les jésuites s'en fichent d'ailleurs, parce que ce n'est pas ça leur problème numéro un. Ils avaient inventé tout ce que la République va inventer, c'est-à-dire l'école gratuite, c'est les riches qui payent, tous les pauvres peuvent recevoir des bourses. C'est une école, pas de l'émulation, pas de l'élitisme, c'est des groupes entre eux qui font des débats. C'est une formation à la fois assez collective et très nombreuse, parce que le professeur s'entoure immédiatement d'assistants qui sont pris dans les élèves.
En tout cas, on a bien compris que tout le monde s'en réclamait.
Notre opticien.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Verlaine sur Europe 1, un extrait de Missa Solemnis. C'était Gloria. Vous nous parlez cet après-midi dans Cœur de l'Histoire, Franck Ferrand des Jésuites, avec vos invités Caroline Pigozzi, grand reporter à Paris Match et spécialiste des religions sur Europe 1, et Henri Madelin, jésuite. Il a été maître de conférences à Sciences Po et enseigne au Centre Sèvres à Paris. Ils sont auteurs tous les deux d'un Si fait-il aux éditions Plon.
Alors le père Henri Madelin le disait tout à l'heure, le pape François est le premier jésuite à monter sur le trône de Saint-Pierre. Ça n'est pas une bagatelle, ça. C'est un très grand événement, Caroline Pigozzi.
Oui, c'est un grand événement, d'autant qu'il le dit lui-même. D'ailleurs, dans l'avion qui le ramenait du Brésil, je lui ai posé la question s'il se sentait jésuite. Et ce qui a été amusant, c'est que le Padre Lombardi, c'est-à-dire le directeur de la communication de la salle de presse, quand il a vu les questions, parmi les questions posées, parce qu'on faisait ça sur un petit papier, il a tout à coup souri. Je me suis dit, je vais pouvoir poser ma question. Et le pape a répondu à cette question avec beaucoup de joie, en expliquant qu'il se sentait jésuite, qu'il était jésuite dans son cœur, qu'il était resté jésuite.
C'est
et
une
non
question,
pas franciscain.
C'est une question théologique, répond-il, parce voilà. Que les jésuites font vœu d'obéir au pape, mais si le pape est jésuite, il doit peut-être faire vœu d'obéir au général des jésuites. Ça manque pas d'humour comme réponse.
Oui, et quand il a dit ça, il a eu son regard circulaire, il a regardé comment on le regardait dans l'avion, c'était très amusant à observer.
Je me sens jésuite dans ma spiritualité, dans la spiritualité des exercices spirituels, dans la spiritualité que j'ai dans le cœur, je n'ai pas changé de spiritualité. François, franciscain, non, je me sens jésuite et je pense en jésuite, pas de manière hypocrite, précise le pape. Qu'est-ce que c'est que ces exercices spirituels auxquels il fait référence, père Henri Madelin ?
Bah, c'est vrai que quand on cherche une source qui alimente la façon de faire, la façon d'être, la prière et la communication aussi aux fidèles, c'est des exercices spirituels. Le mot est très bien choisi, c'est pas des réflexions intellectuelles ou théologiques sur Jésus, Dieu, la Trinité, c'est s'engager à s'arrêter dans une vie, à entrer dans le silence, avec quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui vous donne des instructions, quelqu'un qui contrôle la manière dont vous entrez dans cet exercice. Parce que saint Ignace dit de même que courir, marcher, manger sont des exercices corporels, ben, il faut aussi faire des exercices spirituels. Alors vous vous mettez devant Dieu, c'est pas que vous allez le trouver comme ça, il faut d'abord écarter tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à lui parler, vous n'arrivez pas à vous approcher de lui, et là il faut être guidé pour ce travail, et puis il faut pas avoir peur de se mettre en face d'une question importante. C'est une manière de décider pour sa vie en écartant tout ce qui a l'air de pas vous aiguiller vers cette façon d'être.
Alors, on a beaucoup expliqué que les jésuites étaient dans le siècle, qu'ils vivaient avec leur temps, qu'ils étaient au contact permanent du monde. On a vu le rôle essentiel qu'ils jouent en matière d'enseignement. Est-ce que cette dimension pratique de la formation des jésuites, de leur esprit, de leur façon d'être, a joué un rôle dans la formation même du pape, Caroline Bigozzi ?
D'abord, on le sent très pragmatique, hein, c'est ça, le sent très politique aussi. Il vient d'un
pays... on viendra au jésuitisme tout à l'heure, si vous voulez.
Et il vient d'un pays où quand même on est obligé d'être très alerte dessus, et on le sent, il occupe le terrain. Oui, il est avant tout politique. Et puis, il est dans la vie. Et d'ailleurs, quand je lui ai posé cette question, il y a répondu avec une telle aisance et une telle joie que j'ai failli lui poser une autre question qui était de lui demander s'il rêvait en italien ou en espagnol. Puis, il faut faire attention. Parce qu'on n'est jamais l'ami du pape. Il faut garder une certaine réserve. Oui, je me suis dit, il ne faudrait pas que ce soit la question de trop. Vous savez, c'est comme les hommes politiques qui font le mandat
jusqu'où,
trop.
Jusqu'où ne pas aller trop loin.
Je n'ai pas posé la question, oui, je me suis pincé les lèvres.
Mais il a, avec les journalistes, avec vous en particulier, j'ai l'impression, mais avec les journalistes en général, une relation privilégiée, il faut le dire.
Et il les découvre, les journalistes, parce qu'il les a toujours fuis quand il était l'archevêque
donc
de Buenos Aires.
Vous nous expliquez en quelques mots quel a été son parcours, car tout le monde n'est pas au fait de cette carrière-là.
Et il était en Argentine, il a fait son séminaire en Argentine, il est allé étudier une année en Allemagne, dont il ne garde pas d'ailleurs un très bon souvenir. Et puis il est revenu en Argentine, où il a enseigné chez les jésuites, il a enseigné notamment la psychologie. Et la littérature, mais surtout la psychologie. Et puis, il est devenu archevêque de Buenos Aires. Et puis, dans la foulée, il a été créé cardinal par le pape Jean-Paul II. Et il faut savoir qu'il venait à Rome le minimum. Il n'aimait pas venir en Italie, il n'avait pas tellement de repères.
Il se rattrape maintenant.
Quand il venait à Rome, il voyait des Argentins et il n'habitait pas à l'intérieur du Vatican. Il n'était pas très heureux en Italie. Donc c'est assez intéressant parce qu'on vous dit ce pape est d'origine italienne, d'origine piémontaise. Alors c'est intéressant parce qu'il est effectivement d'origine piémontaise. Les Piémontais, ils ont les pieds dans les montagnes. C'est-à-dire que ce sont des... gens quand même qui sont proches de la terre finalement.
Les médias ont beaucoup insisté sur le fait qu'il avait payé pillé son hôtel. Enfin, on a beaucoup
oui,
raconté cette histoire.
Bon, mais ça c'est vrai, mais si vous voulez, c'est un peu anecdotique parce que l'hôtel en question, il appartient au Vatican. Donc, si vous voulez, c'est un argent qui revenait de toute façon au Vatican. Donc, c'était une coquetterie, je pourrais dire.
Mais en même temps, cette coquetterie, on dit quand même long sur justement ce côté extrêmement de plein pied avec le monde,
oui,
si je puis dire.
Oui, et puis peut-être un esprit d'indépendance aussi.
Ah, oui, peut-être. Oui.
Je veux pas qu'on regarde ma note d'hôtel, même si elle est très modeste, c'est moi qui décide. Vous voyez, c'est un pape qui néanmoins reste très indépendant et tout ça est quand même lié au fait, par exemple, qu'aujourd'hui il n'habite pas le palais pontifical, il veut pouvoir respirer.
Alors vous nous dites qu'il a un esprit politique et j'ai fait allusion tout à l'heure au jésuitisme. Vous parliez de la formation de François Mitterrand chez les bons pères et alors on a dit c'est forcé, son esprit lui vient des jésuites. Les jésuites ont quand même, qu'on le veuille ou non, Henri Madeleine, la réputation depuis des siècles d'avoir une pensée légèrement tortueuse. Est-ce que c'est un faux procès ?
Moi, je pense ça comme un compliment. Je pense que les jésuites, évidemment, tranchent probablement dans l'Église par une espèce d'observation extraordinaire du temps dans lequel ils sont. Parce que si vous allez en mission et que vous voulez travailler en mission, il faut vous inculturer, comme on dit aujourd'hui, au pays où vous arrivez. C'est ce qu'on pourrait appeler l'odeur des brebis, que aime bien citer le pape, c'est la traduction d'un grand concept. Et alors, tout à l'heure, vous avez dit les jésuites sont des intellectuels. Je ne pense pas que c'est l'ordre le plus intellectuel de l'Église à cause de tout ça. C'est-à-dire, c'est la pratique.
Ils ont une formation très poussée.
Ça peut être une formation scientifique, pas forcément
ça,
théologique.
Voilà. Oui, oui.
Je dirais plutôt qu'ils sont des aides à la décision des gens. C'est-à-dire, leur travail, c'est d'aider des gens à se décider dans la vie, finalement. C'est des hommes d'action. Alors ça trouble. Peut-être ça met aussi des divisions à l'intérieur du monde, mais les jésuites, de fait, ont une certaine manière d'aborder les choses. D'abord, ils sont solidaires entre eux, ce qui est quand même... Ils ne sont pas toujours unis, mais ils sont solidaires entre eux. Et ça donne une force de frappe assez considérable.
Mais on a presque l'impression qu'il faut passer par les jésuites pour comprendre un jésuite. En tout cas, c'est ce que vous avez fait, Caroline Pigozzi, en vous adressant à Henri Madeleine pour cet ouvrage.
Ah ben ça, d'abord, moi j'ai été à l'école chez les Sœurs de Sainte-Marie, on allait à la gymnastique chez les jésuites. J'ai fait ma confirmation chez les jésuites, ma communion solennelle chez eux, j'avais un frère chez les jésuites, j'étais cernée. Une belle sœur prof à Franklin, j'étais cernée. Et pourquoi je suis passée par le père Henri Madeleine ? Parce que quand ce pape a été élu, je connaissais quelques histoires sur lui justement par un cardinal jésuite, Padre Tucci, mais je comprenais pas du tout comment il fonctionnait. J'étais perdue. C'est vexant pour une journaliste de pas comprendre. Et puis un jour dans ma voiture revenant à Europe 1, justement, enregistrer mon édito, j'ai entendu le père Madeleine qui a parlé des jésuites et qui a parlé de ce pape de façon très claire. Et je me suis dit, voilà, c'est mon fil conducteur. Donc je suis allée voir le père Madeleine et je me suis dit que c'était impossible d'avoir l'ambition d'écrire sur ce pape jésuite, premier pape jésuite de l'histoire, sans comprendre d'abord comment fonctionnaient les jésuites. Donc le père Madeleine était la personne idéale, même génération, ancien provincial de France, c'était... l'homme de la situation.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un jésuite archétypal, le pape François, selon vous,
oui,
père Madeleine ?
Oui, parce qu'il n'a pas eu une vie très facile, ce qui montre qu'il a été jeté dans les problèmes du monde. Il a travaillé avant de devenir un séminariste et un jésuite. Il a réfléchi à ce qu'il allait faire de sa vie religieuse et donc il est passé d'un séminaire à la Compagnie de Jésus. Les livres citent les motivations qu'il a données de ce choix. Bon, d'abord, il a dit c'est un ordre où il y a de l'ordre. Bon, il a appelé ça militaire, c'est pas forcément une caractéristique essentielle aujourd'hui, mais ça veut dire il y a une vision du monde que tout le monde est invité à prendre sans forcer les libertés. Il voulait être missionnaire au Japon. Alors, il a un début assez difficile comme jésuite, comme provincial, parce qu'il faut, on n'a pas le temps, mais il faudrait décrire ce qu'a été cette Argentine au moment où il est provincial. Catastrophe,
et oui,
vraiment
évidemment.
Terrible. Après Perón, on entre dans un monde de gauche qui est extrêmement violent et la dictature approche. Il connaît la dictature en étant provincial. Et là, il a des réflexes qu'on lit maintenant dans les livres. Il a défendu des gens. Parce que, par exemple, il avait un Hongrois dans ses effectifs jésuites comme provincial. Et il était hanté par cette idée qu'avoir un Hongrois, si la police savait qu'il avait un Hongrois... Et il y a des gens qui ne manquaient pas de le dire. Bon, c'est un infiltré qu'il a amené pour espionner. Voilà, il espionne pour la solde, je sais pas quoi, des communistes. Donc, il n'a eu de cesse que de le faire sortir des villes.
Des conditions politiques et sociales extrêmement subtiles et compliquées. Oui,
et
difficiles.
On peut dire qu'il a défendu plutôt l'existence de l'ordre. Pas de bêtises, pas de discours, pas de livres de Marx sur les tables quand la police va venir vous visiter. et éliminez-moi tout ça. Et il a exfiltré le plus vite possible ce jésuite en le faisant sortir d'abord de la compagnie, puis il est parti en Allemagne.
On pourrait citer un grand nombre d'ouvrages consacrés déjà à ce pape François, qui est un véritable, en tant que tel, un véritable phénomène de librairie. Je me contenterai du vôtre, évidemment. Caroline Pigozzi, Henri Madeleine, Ainsi fait-il. Ça a été publié à l'automne dernier, mais il s'est réédité déjà avec une nouvelle édition mise à jour et augmentée de 3 chapitres. On suit quasiment ce pontificat au jour le jour.
C'est un feuilleton.
C'est un feuilleton.
C'est un feuilleton et un tapis roulant, ça s'arrête jamais. Donc si on perd un jour, on est largué.
Merci beaucoup à vous deux. Merci.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Arthur. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1 et il aimerait connaître l'origine du nom des continents.
Alors déjà, peut-être le mot continent lui-même, qui est dérivé du latin continens, on a l'impression d'être chez les pères jésuites. Continens, ça veut dire qui se tient solide, ferme. Dans son sens géographique, il s'agit d'une vaste étendue continue de terre à la surface du globe, donc entourée par les océans, évidemment. Alors, avant de parler de leur nom, il est important de préciser qu'on n'est même pas tout à fait d'accord sur le nombre de continents. Ça dépend si l'on considère le continent strictement dans sa définition géographique ou bien dans sa dimension historique. Certains modèles ne dénombrent que 4 continents, parce qu'ils regroupent l'Asie, l'Europe, l'Afrique en un même continent, qu'on appelle l'Afro-Eurasie. Et puis d'autres montent jusqu'à 7, en faisant en plus la distinction entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Bref, les noms des continents eux-mêmes viennent largement de l'histoire, bien entendu. L'Europe, d'abord, est inspirée du mot phénicien Ereb, qui veut dire le couchant. L'Asie, inspirée du mot phénicien Assou, qui voulait dire le levant. Il faut vous dire que pour les Phéniciens qui vivaient dans la région du Liban actuel, les terres situées sur le rivage ouest de l'actuelle mer Égée étaient du côté du levant, évidemment, et celles de l'actuelle Asie du côté du couchant. Pour ce qui est du mot Afrique, c'est le continent dont le nom, en tout cas, est le plus incertain. À partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, le nom d'Africus était donné par les Romains à une de leurs provinces situées en actuelle Tunisie. Donc au départ, ce qu'on appelait l'Afrique, Africus, c'était vraiment juste cette partie de l'Afrique du Nord, avant de s'étendre peu à peu à l'ensemble du continent, à mesure tout simplement que les Européens, disons-le, l'ont découvert. Alors pour ce qui est de l'Amérique, c'est beaucoup plus facile. C'est que le terme vient du nom du navigateur florentin Amerigo Vespucci, qui, en 1502, a été le premier à émettre l'hypothèse que les fameuses terres découvertes par Christophe Colomb constituaient un continent à part entière. L'Océanie doit son nom évidemment au mot océan. C'est le géographe français Conrad Maltebrun. C'est Maltebrun qui a donné son nom à l'Océanie en 1812. Quant à l'Arctique, ça vient du grec arctos qui signifie l'ours parce que c'était le continent désigné par la position de la constellation de la Petite Ours. Quant à l'Antarctique, c'est de l'autre côté, c'est l'inverse, c'est l'anti-arctique, tout simplement.